Et le texte que j'avais avec vous à mon église, j'ai commencé une étude sur l'Épître aux Hébreux. Et j'ai trouvé ça vraiment particulier parce que, tu sais, je connaissais Hébreux quand même assez bien, mais quand tu commences à rentrer dans le texte puis tu l'étudies en profondeur, tu découvres énormément de vérité. Et dès les premiers versets, j'ai été frappé par la profondeur qu'il y avait dans cet Épître-là. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 1. Et on va lire les trois premiers versets. On ne regardera pas tout ce qu'on a dedans. Je vais mettre l'emphase principalement sur comment l'auteur nous décrit Jésus-Christ. Et vous allez comprendre pourquoi je veux faire ça avec vous ce matin. Donc, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Permettez-moi de prendre juste un petit moment de prière, s'il vous plaît. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour le passage d'Hébreux qu'on vient de lire, Seigneur. Tellement de vérités qui sont extrêmement importante pour nous et la façon dont l'auteur, comment il a été inspiré pour nous parler de Jésus-Christ, nous le présenter comme celui qui est au-dessus de toute chose, qui est supérieur en toute chose. Seigneur, ce matin, c'est ce qu'on veut faire ressortir. Je me place vraiment devant toi, en toute humilité, pour que ce soit toi qui parles au travers de ce texte-là. Et je te prie, Seigneur, de faire du bien à ton peuple qui est ici ce matin, dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? C'est qu'il y a un contexte vraiment particulier à l'Épître aux Hébreux. Les destinataires, ce sont des Juifs qui se convertissent, donnent leur vie à Jésus-Christ et qui doivent abandonner le judaïsme, doivent abandonner leur religion dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle ils étaient investis, religion qui était encore en fonction à cette époque-là, au moment où ce que l'auteur écrit. Mais ce que ça l'a fait pour eux, c'est extrêmement difficile pour ces Juifs-là. Ils vivaient toutes sortes de choses, toutes sortes de difficultés, je vais les mentionner tantôt. Puis ce que l'auteur veut faire, c'est leur montrer que malgré tout ce que vous vivez, malgré toutes les difficultés auxquelles vous faites face parce que vous avez abandonné le judaïsme pour vous tourner vers le christianisme, Jésus-Christ est supérieur en toutes choses. En fait, cet épître-là est pour donner de l'assurance à des croyants qui ont trouvé ça difficile d'abandonner le judaïsme et de se tourner vers le christianisme, qui ont trouvé ça difficile de renoncer à leur héritage pour s'attacher à une nouvelle alliance. En fait, cet épître-là, l'auteur veut encourager des croyants à ne pas retourner en arrière, à ne pas retourner au modèle du judaïsme. Parce que le Juif qui se convertissait à ce moment-là, qui abandonnait le judaïsme, voici ce qui arrivait dans sa vie. Ben, il était déshérité de sa famille. Il pouvait être excommunié. Perte d'emploi. Perte de ses biens. Persécution. Moquerie publique. Emprisonnement. Et même martyr. Moi, je ne les juge pas, puis je les comprends de se poser la question, puis de dire, OK, je suis mieux de retourner au judaïsme. Parce que leur vie était presque moins difficile avant de se convertir. Moi, je ne vous connais pas, là. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin ou ce que tu as vécu cette semaine. Mais chaque jour, hein, la vie nous semble de plus en plus difficile. Crise climatique, l'endettement, le prix des loyers qui augmente, le prix de l'hypothèque, le prix de l'essence, là, on vient de le voir. Peut-être qu'il y a des pertes d'emploi qui est associée à ça. Tout ça, veut pas, ça provoque aussi des fois des difficultés dans un couple, parce que les deux ne s'entendent pas sur la façon de réagir avec ces choses-là. Ça peut être des difficultés avec les enfants. Mais moi, je veux juste te dire ce matin que Ça se peut que tu les vives présentement, ça se peut que tu les aies vécues cette semaine, mais moi, je veux juste te dire que Christ est supérieur à toutes ces choses-là. Vous savez, l'Évangile, elle ne vous dit pas que parce que tu as Christ dans ta vie, que tout ça va disparaître. Ça, c'est la fausse Évangile. Ce que l'Évangile dit, c'est que oui, ces choses-là vont peut-être rester, mais avec Christ, tu vas pouvoir passer au travers. Je suis convaincu que vous connaissez tous quelqu'un qui a abandonné la foi à cause de la difficulté. Moi, j'en connais. Des gens qui, elle a perdu ses deux parents en l'espace de 6 mois, puis au bout de tout ça, elle a rejeté l'Évangile. C'était trop dur. Pourquoi? Elle ne comprenait pas que Dieu faisait ces choses-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire à ces croyants-là qui souffrent, qui vont peut-être se faire martyriser, peut-être emprisonner, qui vont peut-être tout perdre, ne reculez pas. Ne retournez pas en arrière. En fait, ce matin, je veux juste vous donner des raisons de garder votre foi, d'affermir votre foi, puis de persévérer même si c'est difficile. Même si dans tout ça, vous dites, ben, qu'est-ce qui me reste? Ben, il vous reste Jésus-Christ. Et c'est ça que l'auteur veut faire. En nous présentant Jésus comme étant la révélation suprême, la révélation extraordinaire, mais il va nous dire pourquoi il est cette révélation-là. Et il va nous donner 7 caractéristiques de Jésus. Puis je veux juste vous les mentionner. Mais gardez à l'esprit pourquoi je vous les mentionne. Parce que je ne veux pas que vous abandonniez la foi dans la difficulté. Je vais vous donner cette possibilité-là de persévérer en Jésus-Christ. Parce que l'auteur nous dit qu'il est l'héritier, il a fait la création, il est le reflet, l'empreinte, il soutient toute chose, il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de Dieu. Et pour que vous puissiez avoir une image de ce texte-là, moi je trouve ça vraiment intéressant de voir que l'auteur a utilisé une figure de style qui était en grec, qui était utilisé, qu'on appelle un chiasme. Puis je vais vous le mettre à l'écran, OK? Et vous allez pouvoir, avec une seule image, voir tout ce que l'auteur va nous dire dans ce texte-là. Un chiasme, OK, vous allez le voir, c'est une figure de style, c'est un croisement d'éléments, le ABBA, qui donne du rythme, qui a un parallèle à l'intérieur, puis qui va surtout mettre un accent sur un point qui est super important. Et dans un chiasme, le point important, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, c'est celui qui est à l'intérieur, celui qu'on retrouve au centre. Et vous le voyez, je vous ai mis l'image. Donc, vous voyez, héritier, j'ai mis un petit A. Puis qu'est-ce qu'on a aussi? C'est quoi le parallèle? C'est qu'il y a l'ascension, donc il est assis à la droite de Dieu, on a encore le A. Création, donc vous avez le B, il soutient cette création-là, vous avez encore le B. Et qu'est-ce qu'on a au centre de tout ça? L'auteur nous dit qu'il est le reflet et l'empreinte de Dieu. L'auteur, qu'est-ce qu'il veut mettre en valeur dans son chiasme? C'est la divinité de Jésus-Christ. Christ est Dieu. Tous les attributs, tous les sens de Dieu sont présents à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que Christ est supérieur en toute chose. C'est pour ça que Christ est supérieur à votre hypothèque, à votre crise, à vos douleurs que vous avez, aux problèmes que vous vivez avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants, à votre perte de travail. Christ est supérieur à ces choses-là parce qu'il est Dieu. Mais comment l'auteur peut en arriver à nous présenter Jésus-Christ comme Dieu? Bien, il commence en nous disant qu'il est héritier. Tiré du psaume 2, verset 8, ce terme ne se réfère pas au sens commun d'un héritier. Bon, pour nous, un héritier, c'est lorsqu'un proche décède et son héritage lui est transmis. C'est comme ça pour nous qu'on a l'idée d'être un héritier. Quand mes parents vont décéder, je vais être l'héritier de leur bien. Pour Christ, comment il est devenu héritier? Non pas à cause d'un décès, mais parce qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu, à cause de sa dignité, à cause de son rang, en tant que tel, tout lui appartient. Il n'y a pas besoin d'avoir un mort pour qu'il devienne héritier. Parce qu'il est fils de Dieu, tout lui appartient. Et ça, on a ce principe-là est démontré dans l'Apocalypse au chapitre 5. On ne prendra pas le temps de lire le texte, je vais juste vous le résumer. Vous savez, hein, ce livre scellé de sept sceaux, dont les vieillards sont tristes parce qu'il n'y a personne qui peut l'ouvrir, il n'y a personne qui en est trouvé digne. Mais là, il y en a un qui dit, « Hey, j'ai le lion de la tribu de Juda qui est ici. » Lui, il en est digne. Puis avez-vous remarqué que le verset qui suit, c'est probablement que Jean devait s'attendre à voir un lion rugissant. Et non, le texte nous dit qu'il y avait un agneau qui était là, comme immolé. Ce texte-là m'a toujours frappé. Hey, j'ai le lion de la tribu de Juda qui est là, il est digne d'ouvrir le livre. Jean se retourne, puis il ne voit pas un lion, il voit un agneau immolé. En bref, je referme la parenthèse, je ne vais pas me laisser emporter. Mais ce livre-là, scellé de sept sceaux, c'est la représentation du traité de la terre, de la propriété de la terre. Christ est le seul qui pouvait ouvrir la terre, la propriétaire de la terre. Il est le seul. Il est seul qui en était digne d'en prendre possession puis de l'ouvrir. Donc, tout lui est dû. Toute chose lui revient parce qu'il est fils de Dieu, à cause de son rang. Ensuite, le texte nous dit qu'il est créateur. Christ est l'agent de la création. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, la création. Moi, j'ai une relation un peu particulière. Je suis toujours émerveillé par la création. Bon, hier, là, il n'y a pas juste Marco là, qui a brûlé du bois. Là. Moi, je n'ai pas brûlé de bois, mais j'ai râtelé, je le sens ce matin. Et je suis émerveillé par... Je passe à côté d'un arbre, là, que les bourgeons, ils sont là, ils reviennent... J'ai rien à faire. Tout se fait tout seul. Il a passé un coup, un envolé d'outarde. Je trouve ça beau. J'aime ça. T'sais, ça crie. Je trouve ça intelligent comment que c'est fait. Il y en a une en avant, les autres marchent derrière, puis ils s'échangent ça. Je trouve ça beau, la création, comment que Dieu a fait les choses. L'été passé, on est allé à Charlevoix. J'étais un amateur de kayak, puis sur une rivière, la rivière Malbé, à travers des montagnes, 9-10 kilomètres au travers de tout ça. Puis je suis émerveillé par ce que Dieu fait. Je trouve ça beau, la création. Mais l'auteur nous dit que cette création-là, qui est belle, qui est merveilleuse, qui a plein de couleurs, qui fonctionne tout seul, bien, c'est Jésus-Christ qui en est l'auteur. Il est l'agent de la création. Et juste pour peut-être enchérir un peu, Colossiens 1:16 nous dit que la création, elle est en lui. Ça veut dire qu'il est l'architecte. C'est Jésus qui a préparé le plan. C'est Jésus qui a tout pensé, qui a tout réfléchi. Il est l'architecte de la création. Dans les moindres détails, Jésus a tout planifié comment ça allait être, puis comment ça allait terminer. Paul continue dans Colossiens en nous disant que c'est par lui. Jésus a la puissance en lui pour la création. Ce n'est pas Dieu qui a donné la puissance à Jésus-Christ. Jésus-Christ, de par sa nature, parce qu'il est divin, avait la puissance pour faire la création. Et finalement, pour lui. Spontanément, vous pensez probablement à la gloire. Tu sais, veux pas, c'est ce que je fais là, quand je regarde un envolé d'outarde, puis « Ah, merci Seigneur, je trouve ça donc bien beau, puis t'es grand, puis c'est une façon pour moi de le louer, donc c'est pour sa gloire. » Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le fait que ça a été créé pour lui. Donc, ça veut dire que Christ a créé l'univers, il a créé le temps, il a créé l'espace pour exister un jour, venir ici-bas sur cette terre et accomplir l'œuvre de la rédemption. Ça prenait une terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Ça prenait des arbres pour faire une croix. Puis c'est tout Jésus-Christ qui a fait ça. Faites juste penser à ça. Il a créé ça pour lui, pour aller mourir sur la croix, pour venir accomplir le plan de la rédemption. Donc, il est l'héritier, il est le créateur. Ensuite, l'auteur nous dit qu'il est le reflet de Dieu. Ce terme ne veut pas dire que la gloire de Dieu reflète sur Jésus-Christ. Vous savez, comme si Jésus est sur terre, puis là, c'est la gloire de Dieu qui reflète sur Christ. Le terme veut mentionner que c'est l'inverse. De Jésus-Christ, la gloire de Dieu émane. Elle vient de lui. Ce n'est pas la gloire de Dieu qui va sur Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu qui sort de Jésus-Christ. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Tournez avec moi, s'il vous plaît, rapidement dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Jean nous dit ceci, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » de Jésus-Christ a émané, est venue la gloire de Dieu. Il est donc le reflet, il diffuse la gloire de Dieu. Nous avons ensuite l'expression « cette empreinte de Dieu ». Vous savez, Jésus ne diffuse pas seulement la gloire de Dieu. Mais le terme « empreinte » fait référence qu'il est une représentation parfaite de Dieu. Il est l'image exacte de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15 nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Jésus a dit à Philippe, « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que je suis identique au Père, je suis pareil comme lui, je suis son empreinte. » En Jésus-Christ, on voit la personne de Dieu. On voit l'essence de Dieu, on voit la nature de Dieu. En grec, ce terme, c'est « caractère », qui est utilisé en imprimerie. Vous savez, si on veut un « A », bien, on prend le caractère « A », puis là, on l'étampe. Ma connaissance de l'imprimerie s'arrête là, fait que je ne peux pas aller plus loin dans mon explication. Probablement que ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. En fait, le caractère laisse le sceau de quelque chose ou de quelqu'un. Parce qu'il est lui-même ce quelqu'un-là ou ce sceau-là. Jésus laisse l'empreinte de Dieu parce qu'il est Dieu. Jésus est donc son empreinte. Ensuite, ça nous dit qu'il soutient toute chose. Là, on revient à la création. Vous voyez là, avec mon chiasme qui est là. Donc, il a créé. Et là, il soutient. Ça, je trouve ça extraordinaire. Littéralement, c'est appuyer, c'est maintenir. C'est-à-dire que Jésus-Christ fait une action continue. Christ soutient l'équilibre de l'univers. Toutes les lois, toutes les normes, tout ce qui tourne autour de quelque chose, puis qui tourne autour de l'autre chose, puis qui tourne sur lui-même, c'est tout Jésus-Christ qui soutient toutes ces choses-là. Par sa puissance, par son pouvoir, c'est ce que Christ est en train de faire, par sa sagesse. Et le tout, il le fait sans effort. Et là, je ne veux pas dénigrer ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que ça se fait sans lever le petit doigt. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, si Jésus cessait de soutenir la terre, ne serait-ce qu'une nanoseconde, tout s'écroulerait. Ce serait fini. La terre, ce n'est pas quelque chose qui a été créé. C'est comme une switch qu'on met à on, puis qu'après ça, ça fonctionne tout seul. Jésus doit soutenir la terre constamment, en tout temps. Il ne peut jamais cesser de la soutenir, sinon ça va être le chaos. Ensuite, l'auteur nous dit que Jésus-Christ a fait la purification des péchés. Vous savez probablement que même si je ne vous avais pas dit les autres choses, seulement celui-là devrait vous réconforter ce matin, parce que vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation sur vous. Vous êtes libres de la colère de Dieu. Puis un jour, on va être dans sa présence pour l'éternité. Parce que Jésus a accompli la purification des péchés. Il nous a donc libérés de la condamnation à la croix. Il nous libère de la puissance du péché. Ça, c'est le privilège d'être un enfant de Dieu. Nous pouvons dire non au péché. Ce qu'on ne peut pas faire avant notre conversion. On est esclaves du péché. Maintenant, on est esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Nous pouvons dire non au péché. Et un jour, nous posséderons notre plein salut et nous serons délivrés de la présence du péché quand on va être dans le ciel avec un corps renouvelé. Fini les combats, fini les luttes, fini l'acharnement à résister au péché. Il n'y en aura plus parce qu'on va être dans la présence de Dieu. Mais tout ça parce que Christ a fait la purification des péchés. Et finalement, le texte nous dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Le fait que Jésus soit assis à la droite de Dieu, c'est une position d'autorité. Vous savez que tout sacrificateur devait offrir jour après jour les sacrifices. Le sacrificateur dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, n'avait jamais la possibilité de s'asseoir parce qu'il faisait des sacrifices sans arrêt. Fais des sacrifices. Qu'est-ce que tu as fait demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Des sacrifices. Qu'est-ce que tu as fait hier? Des sacrifices. C'était tout le temps ça. On ne pouvait jamais s'asseoir. Et là, l'auteur nous dit, « Hey, il y en a un qui a offert un sacrifice, le dernier des sacrifices, le sien, celui de son corps, celui de sa vie. Et maintenant, parce qu'il a fait cette purification-là, parce qu'il s'est donné lui-même, il est assis à la droite de Dieu. Christ, donc, ayant offert l'ultime sacrifice, peut maintenant s'asseoir dans les lieux très hauts pour quatre choses. La première, pour être honoré, Philippiens 2, chapitre 11. C'est ce qu'on a fait ce matin avec la louange. On a honoré Dieu parce qu'il est assis dans les lieux célestes, parce qu'il a accompli le pardon de nos péchés. Pour exercer son autorité dans 1 Pierre 3, chapitre 2. Pour se reposer dans Hébreux 12, 10, parce que le sacrifice est accompli. Mais également pour intercéder. Oui, le travail de purification est terminé, mais le travail de Jésus-Christ envers ses enfants n'est jamais terminé. Parce qu'aujourd'hui, même dans le ciel, il intercède pour chacun d'entre nous en tant que souverain sacrificateur. Et j'aimerais ça vous laisser avec un texte qui me touche énormément, celui de la lapidation d'Étienne. C'est bizarre à dire, mais ce n'est pas la lapidation que je trouve extraordinaire. Vous savez, quand Étienne est lapidé, fait face à la mort, la lapidation, ce n'est pas quelque chose de le fun. Il lève les yeux au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Jésus-Christ debout à côté du trône. Moi, ce texte-là me touche, je vous en parle, puis ça me touche encore ce matin. Quand un de ses enfants est dans le besoin, quand un de ses enfants souffre, Jésus-Christ se lève du trône pour intercéder pour lui. Oui, sa mission a été accomplie, sa mission est terminée, la purification des péchés s'est faite, mais il intercède, il est là avec vous chaque jour de vos vies. Puis quand vous avez besoin, levez les yeux au ciel et vous allez voir Jésus-Christ qui est passé sur le trône, il s'est levé pour venir vous aider. Et le texte nous dit qu'Étienne s'est endormi paisiblement. Il va mourir. On le lapide. Puis il meurt paisiblement. Moi, je suis anxieux parce que les problèmes au travail, je suis anxieux parce que, bon, avec ma conjointe, on s'est asticoté un peu. Moi, j'ai telle difficulté. Fait que, tu sais, m'endormir paisiblement, c'est très rare. Il y a toujours quelque chose. Puis je ne fais pas face à la mort, là. Mais Étienne, on lapide, lève les yeux au ciel, puis voit Jésus qui est debout à côté du trône pour lui venir en aide. Vous savez, frères et sœurs, ce matin, peu importe ce que vous vivez, peu importe par quelle difficulté tu passes, Jésus est supérieur à cette difficulté-là. Puis lève les yeux au ciel. Il va se lever du trône. Puis il va venir te donner un coup de main. Il va se soutenir. Puis il va être là pour pas que ta foi défaille, pour pas que ta foi diminue, pour pas que tu lâches puis que tu abandonnes la foi. Jésus-Christ est là. Il est supérieur en toutes choses. Lui qui est l'héritier, le créateur divin, qui soutient toutes choses, qui a fait de la purification et qui est dans le ciel maintenant pour intercéder pour nous. Je vais terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, on est tellement bénis d'avoir un texte comme celui-là ce matin. Puis on veut te remercier pour les vérités qu'on a pu trouver, puis on a pu ressortir, Seigneur, dans ce texte-là, surtout la grandeur de Jésus-Christ. Ce matin, tu connais ton peuple, Seigneur. Tu sais ce qu'ils vivent. Tu connais leurs besoins. Et je te prie, par ce passage-là, de venir à leur aide dans leur vie, Seigneur. Que tu les accompagnes, peu importe ce qu'ils vivent, qu'ils réalisent, que tu es supérieur à leur situation, supérieur à leur souffrance, supérieur à ce qu'ils vivent. Seigneur, mets ta main sur eux ici et que tu puisses les bénir et les accompagner. Dans le nom précieux de ton Fils. Amen.